On est de retour sur la chaîne Basket Session Rivers et cette fois-ci à mes côtés c'est Théo. Théo qui prend la place de Shai. Théo, il n'y a pas eu de match cette nuit, mais on va quand même parler de basket évidemment et on va parler de Rudy Gobert. Un homme qui divise, un sujet qui divise, même jusque dans les commentaires de nos vidéos YouTube, on voit de tout. Il y a les gens qui défendent Rudy Gobert, il y a les gens qui n'aiment pas du tout Rudy Gobert. C'est un joueur très particulier, mais il y a une stat intéressante, Théo. Qui ne plaira pas sans doute à Gilbert Arenas, à Draymond Green et à d'autres, c'est le fait qu'aujourd'hui, si tu prends les 15 joueurs les mieux payés en NBA avec les plus gros salaires, et c'est intéressant parce que le contrat de Rudy Gobert a été très souvent critiqué, et ben le seul joueur de ces 15 mieux payés en NBA qui est encore en course aujourd'hui en finale de conférence, c'est Rudy Gobert. Il prend 41 millions l'année donc pour Rudy Gobert, 13e plus gros salaire de la Ligue, et c'est le seul encore en course aujourd'hui.
Eh ben oui, c'est beau, j'ai envie de dire, j'ai envie de reprendre une phrase de Kamaru Usman là de l'UFC qui disait garder la même énergie là pour les gars qui font le show en conférence de presse d'avant match. Il dit non mais garder la même énergie pour quand on sera dans le ring. Là j'espère que tous les mecs qui sont tombés sur le dos de Rudy Gobert, voilà, pour l'allumer à la télé avec des punchlines préparées à l'avance, je pense à Draymond Green bien sûr et à d'autres. J'espère qu'ils vont garder la même énergie maintenant et que après la superbe victoire dans le Game 7 de Minnesota de ce week-end, j'espère qu'ils garderont la même énergie pour souligner l'impact que Rudy a eu sur cette franchise, sur cette saison, sur ces playoffs, parce que voilà. Bon, à force, ce qui est fou, c'est qu'en fait, nous, je ne le considère même pas comme des supporters de Rudy Gobert.
À la base, on n'en a rien à secouer, tu vas pas se mentir.
Exactement, mais en fait, les propos parfois sont tellement absurdes et dénués de sens que ça donnait envie quand même de faire entendre un autre son de cloche. Et ouais, je suis désolé, mais moi, j'en peux plus, en fait, des joueurs qui, parce qu'ils ont été joueurs, même quand ils ont été de grands joueurs, qui estiment que leur avis est forcément plus intéressant que des gens qui n'ont pas joué. C'est juste faux. Et il y a certains joueurs, même certains joueurs actuels et certains anciens joueurs, tu dis, mais en fait, vous ne comprenez pas ce qui se passe sur le terrain. Quoi. Exactement, voilà, Jamal Crawford. Je ne sais plus si c'était Game 5 ou un truc comme ça, où il y a 4...
C'est celui où Jokic domine complètement Gobert. Je sais pas, c'est sur celui-là ou celui juste
ça
après
doit être, je crois que c'est celui-ci. Là. Effectivement, il y a Kat qui sort, qui défendait sur Jokic, et il y a Kyle Anderson qui rentre, et Rudy Gobert pointe Kyle Anderson en disant bah, « tu prends Jokic ». Et Jamal Crawford en live qui dit « mais c'est n'importe quoi, c'est toi le meilleur défenseur de l'année, c'est à toi de prendre Jokic ». Et en fait, tu dis « mais en fait, toi, t'as rien compris au schéma stratégique des Wolves ». Et je trouve que sur les deux dernières victoires des Wolves, bah, il a été excellent, Rudy, dans cette protection de cercle, dans le fait de couper toutes les passes vers Aaron Gordon ou vers les mecs qui coupaient dans la raquette. Et c'est ça le schéma stratégique de Minnesota. Et je veux dire, je trouve ça... Voilà. J'espère que Jamal Crawford va garder la même énergie maintenant et pouvoir expliquer ça la prochaine fois qu'il commentera des matchs. Tout comme Draymond Green qui disait, je ne sais plus si on en avait parlé ensemble, Antoine, tu sais, Draymond Green qui était passé à la télé sur TNT, tu avais Alex Caruso qui disait, non, de toute façon, personne ne peut défendre sur Jokic. Et Draymond Green qui a dit, non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que je peux mieux défendre sur Jokic que ne le fait Rudy Gobert. On est allé regarder les stats avec Antoine des derniers matchs de Jokic face à Draymond Green. Le mec, il tournait à, je sais pas, à 30 points, 13 rebonds, 7 passes. Donc j'espère que tous ces mecs-là garderont la même énergie et pourront souligner l'impact de Rudy dans la victoire, parce qu'il est tout le temps pointé du doigt dans cette série, il a tout le temps été pointé du doigt dans les défaites. J'espère qu'ils le garderont pour souligner un petit peu son apport dans la victoire.
Il y a une petite stat sur l'impact. Alors les stats, c'est toujours, ça peut être tordu dans tous les sens, mais si tu prends depuis le début des playoffs, Rudy Gobert, c'est quand même celui qui a le meilleur plus-minus. Alors ça, il est à plus 11 par game, mais sur l'ensemble des playoffs, il est donc à plus 111. En soi, c'est pas la stat la plus parlante, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est quand même devant tous les joueurs des Celtics pour avoir le meilleur plus-minus. Et ça, c'est fort parce que Boston met des pilules à tous ses adversaires. Boston, je le disais hier dans le CQFR, a plus 13 de net rating. C'est le meilleur net rating depuis... On n'a pas vu un tel niveau de domination depuis les Warriors de 2017. Donc, première année de Kevin Durant qui a très faim avec Stephen Curry, avec Klay Thompson, avec Draymond Green. Klay Thompson, pré-blessure. Draymond Green au sommet de son art. André Iguodala. Pour trouver une équipe qui domine autant les playoffs que les Celtics, il faut remonter à ça. Et malgré ça... Il n'y a pas un joueur des Celtics qui a un meilleur plus-minus. Le deuxième de ce classement, c'est Al Horford avec plus 108. Ensuite, il y a Jrue Holiday, ensuite, il y a Jason Tatum. Alors oui, plus 108, c'est pas loin de plus 111, mais ça reste quand même Rudy Gobert qui est le premier au plus-minus et c'est une illustration de son impact. Même encore dans le quatrième quart-temps du Game 7, il est, tu l'as dit, les schémas défensifs, le but de Rudy Gobert, pourquoi Kat, il défend bien sur Jokic ? Il peut se permettre, il y a une aide derrière lui. À chaque fois qu'il prend Jokic, il sait qu'il y a Gobert qui patrouille derrière. Et Jokic aussi le sait. Jokic aussi prend ça en conséquence quand il joue son post-up. Tu vois, il ne peut pas attaquer de la même manière et aller directement sur Kat, qui au passage a fait un excellent game set tout en faisant quand même quelques fautes absolument débiles.
mais franchement, il n'y en a eu qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule qui est vraiment débile. Et c'est vrai, tu as raison de le souligner. Parce que bah, toi et moi, notamment, on a souvent été durs avec Kat, mais il a fait un énorme match set. Et notamment le moment où finalement les Wolves sont au fond du trou et même ils sortent Anthony Edwards. Mais c'est lui qui porte son équipe sur le dos. Et limite, Denver a mis Kat au défi de porter les Wolves sur son dos. Ouais, et il l'a fait de manière admirable.
Ils lui ont mis Murray sur lui des fois ou souvent. Ils lui ont donné souvent la match-up avantageux en se disant de toute façon tu vas t'enflammer, tu vas faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un pari, ce qui a été jusqu'à présent très souvent payant en play-off, toutes les équipes qui ont joué les Timberwolves en play-off ont fait ce pari de se dire bah, donnons un match-up avantageux à Kat et il va s'enfermer dans son truc, il va jouer solo. Et là, il a été très juste. Et même, tu sais, même dans le match qu'ils perdent, je ne sais plus si c'est le Game 5, il y a un des matchs qu'ils perdent, il est maladroit, mais en fait, il avait bien. Tu sais, il avait juste raté des petits tirs qu'il met d'habitude. Tu vois, il y avait des espèces de flotteurs. Tu sais, ces flotteurs sur le côté avec la planche. C'était pas rentré, ça avait tourné autour du cercle, mais il n'avait pas fait un mauvais match. Il a joué intelligemment, en fait, en attaque. J'ai trouvé 4 sur ce match 6.
Non, je suis d'accord. Sur ce match 7, pardon. Il a progressé aussi parce que c'était catastrophique pendant longtemps. Et je pense, là, dans le match 7, à un moment, il trouve Rudy Gobert qui plonge au panier sur une passe magnifique, là où Rudy finit au cercle. C'est vraiment le type d'action dont Karl-Anthony Towns était incapable par le passé. Et pour le schéma défensif des Wolves, tu as tout à fait raison. Parce qu'en fait, je pense que les Wolves sont partis du principe, de toute façon, personne ne pouvait stopper Jokic. C'est impossible. Donc en fait, Kat a fait l'effort quand même. Là, c'est vraiment les playoffs sur lesquels les mecs font les efforts. Quoi. Parce que Luka Doncic, Kyrie Irving, Karl-Anthony Towns, même Anthony Edwards ont tous passé un cap, alors que pour certains d'entre eux, forcément pour Anthony Edwards, mais pour les trois autres, on s'était dit bon, bah c'est mort, ce sera jamais on les verra à ce niveau-là. Ils ont tous haussé leur niveau et Karl-Anthony Towns a vraiment haussé son niveau défensif sur Jokic, il l'a gêné. Et le truc, c'est que derrière Rudy, il a un impact sur tout le reste finalement des joueurs qui sont derrière et c'est lui qui permet aux autres joueurs de faire les rotations. Et il y a plein de fois, notamment dans la deuxième mi-temps du match 7, où ils arrivent à stopper Jokic, la passe ressort, même ils font prise à deux sur Jokic, la passe ressort et derrière les mecs font les rotations à la perfection. Et ça, tu peux le faire parce que tu as Rudy qui est derrière et tu peux pas faire l'inverse en fait. Si tu mets Rudy sur Jokic, d'une part, t'es pas sûr que Rudy puisse stopper Jokic parce que personne peut le faire. Et ce que Gobert fait derrière en second rideau, Kat est incapable de le faire, il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent le faire.
Ouais, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, de toute façon, qu'il y avait Gobert sur Jokic, Jokic, il sait, bah là, c'est un contre un. Et comme tu l'as dit, bah, un contre un, le gars a une panoplie de moves, il est puissant, il est grand, il a énormément de touchés, il est intelligent, il voit le jeu en même temps. Tu peux pas le stopper en un contre un, Jokic. Donc évidemment, ça crée des dégâts. Et même l'impact offensif de Gobert aussi a été un peu sous-estimé. Je trouve qu'il a été excellent dans le quatrième quart-temps. Après, des fois, il rate des tirs, ouais. Il rate des lancers. Mais il crée une menace verticale. Enfin bref, Rudy Gobert, un joueur particulier, c'est pas une superstar de cette ligue. Il a un contrat de superstar, mais on en parlait, je crois que c'était toi et moi, on en parlait pour Jalen Brown sur le fait que les contrats, c'est pas tant lié à ton niveau de jeu, c'est beaucoup plus politique que ça au final, un contrat et un salaire. Mais voilà, Rudy Gobert, en tout cas, c'est effectivement une belle réponse à tous ces détracteurs. Et honnêtement, moi, je l'ai reconnu, hein, moi, je voyais vraiment pas les Timberwolves aller en finale de conférence au coup d'envoi de cette saison, ni en février. Ni même avant le début des playoffs, je me souviens être là, ouais, les Suns, c'est quand même pas le meilleur match-up pour Minnesota. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais.
Bah moi, le premier, hein, je pensais que Minnesota allait se faire upset au premier tour. Je me suis complètement trompé. Et encore une fois, je suis ravi parce que voilà, cette équipe, elle est kiffante. On regardait une petite vidéo là de Anthony Edwards qui avait le micro sur lui pendant tout le match 7. Et en fait, c'est impressionnant de voir son attitude, même quand son équipe est au fond du trou à moins 20. Il garde le sourire et continue d'encourager tout le monde. Il continue d'être notamment vraiment d'un point de vue stratégique, à parler avec ses coéquipiers, à dire attention, là, ils vont te rapper, donc sors tout de suite du pick and roll. À un moment, il y a une action, il dit ça à Michael. Tu sens qu'il n'y a pas un moment finalement où il a douté et ça a été communicatif. Et la deuxième mi-temps du match des Wolves, c'est Bah, c'est une masterpiece parce que quand tu es à moins 20 au début du troisième quart-temps, retourner à la situation comme ça demande d'énormes ressources. Et bah voilà, faut rendre, je pense, à cette équipe les lauriers qu'elle mérite. Magnifique équipe. Et Rudy a un rôle là-dedans. Donc je dis pas qu'il faut en faire plus que ce qui doit être fait, mais finalement, j'ai l'impression qu'on l'a tellement pointé du doigt sur tout un tas de situations où il n'était pas forcément le principal responsable, que ça mérite qu'il y ait un équilibrage. Donc j'attends de voir la suite. Franchement, j'attends de voir sur la finale de conférence comment vont se positionner les analystes et les anciens joueurs qui sont au micro, parce qu'à un moment, bah, il leur met le nez dedans, quoi. Au bout du compte, il y a un moment, hein. C'est un peu la honte, quoi, je trouve.
Allez, on va parler, je te propose qu'on parle un peu aussi des Nuggets, très brièvement, avec une déclat de Jamal Murray. Voilà, il a expliqué que la charge mentale et physique que ça représentait d'être l'équipe qui est chassée, donc l'équipe championne en titre, est énorme et que ça n'a rien à voir avec la charge mentale ou physique que tu peux avoir quand tu as ce chip on your shoulder, donc cette envie de prouver. Voilà, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait hier avec Shai sur les champions en titre et le fait que être champion en titre, ça, une saison tellement longue et derrière tu enchaînes avec toute la pression que tu as avec toutes les équipes qui veulent te battre, c'est quelque chose qui dans cette ligue aujourd'hui devient trop, presque trop difficile à surmonter, en tout cas est très difficile à surmonter. Et la stat qu'on donnait hier, c'est le fait qu'il n'y a pas un champion en titre qui a atteint les finales de conférence depuis 2019. Et le champion en titre de l'époque, c'était une équipe qui avait encore une fois Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson avant les blessures, Draymond Green. Ils avaient encore André Iguodala, je pense, en 2019. Je ne me souviens plus, mais bref, très grosse équipe des Warriors, quoi.
Ouais, bah c'est sûr que c'est une dynamique différente. Ça montre aussi à quel point la ligue s'est renforcée, je pense, hein. Le nombre d'équipes qui sont dangereuses, alors à l'ouest, encore plus, je pense toujours qu'à l'est cette saison, du moins. Mais c'est vrai qu'en début de saison, à part Boston, personne n'aurait misé sur les trois autres équipes pour être en finale de conférence. C'est quand même une surprise pour beaucoup d'entre elles. Alors bien sûr, il pouvait y avoir des paris. Même quand on a fait nos previews, moi je pensais que Dallas pouvait peut-être finir dans le top 4 et faire une longue série, mais j'aurais pas forcément parié dessus. Les Wolves, je pense que personne n'avait parié sur le fait qu'ils fassent une finale de conférence, même si on les avait trouvés forts quand même dans leur Ils sont sortis au premier tour l'an dernier, mais ils avaient été impressionnants. Derrière, voilà, personne n'aurait parié sur Indiana. Il y a forcément des circonstances particulières, mais malgré tout, ça montre à quel point il est difficile de gagner dans cette ligue. Ça montre bah, le talent en fait dont regorge la NBA, dont la Conférence Ouest, on l'avait dit, c'est un coupe-gorge complet en fait. Si on regarde, c'est assez fou et je trouve que ça rend les choses excitantes, quoi. Tu peux plus être sûr de gagner, tu peux plus prendre ton temps en saison régulière en disant ça va cliquer à un moment, c'est plus possible en fait. Et la ligue est tout simplement trop forte pour. Tu regardes même une équipe comme New York, même avec tous leurs blessés, le fait, alors, certes, beaucoup de déceptions, je pense, de finalement pas atteindre la finale de conférence, mais tu te dis avec tous les blessés, jamais ils auraient dû pouvoir faire un tel parcours, bah, ils ont quand même réussi à le faire. Donc c'est vraiment. Voilà, c'est. C'est une ligue dans laquelle tu peux pas te reposer et c'est encore plus dur quand tu es champion en titre, effectivement. Et quelque part, on se l'était dit un petit peu, même dans la série face aux Lakers, les Nuggets passent relativement facilement, mais à chaque fois, il a fallu qu'ils activent le booster en fin de match. Et il y a un moment où on sait où c'est plus possible. Tu peux pas simplement te miser sur le fait que tu vas pouvoir accélérer à un moment. Denver l'a fait. Moi, je pensais qu'ils allaient passer. Je pensais qu'ils allaient prendre ce match 7 à plus 20 face aux Wolves. Je pensais que c'était quasiment plié. Et en fait, non, c'est juste trop dur. C'est ce que Jamal Murray disait et ce que tu citais, Antoine. Tu puises trop dans tes ressources tout au long de la saison. Et il y a un moment où tu prends le risque, en tout cas, tu prends le risque de caler.
Ouais, moi, tu vois, je vois une équipe qui prend moins 26 à domicile et ensuite moins 45 sur un game 6 où elle peut se qualifier. Tu vois, c'est pour moi le signe que physiquement, il y a un truc qui flanche. Et si ça n'avait pas flanché sur ce game 7, enfin, si ce n'est pas sur ce game 7, ce serait de toute façon été à un autre moment durant ces playoffs. Je n'ai pas le souvenir d'un champion qui perd deux matchs de 26 et 46 points au cours des playoffs. Je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé, j'ai pas vérifié, hein. Faudrait évidemment vérifier, mais je pense vraiment pas qu'il y ait une équipe qui perde de 26 et de 45 points deux matchs di distincts et ensuite gagne une bague. Je suis vraiment pas sûr que ce soit déjà arrivé, tu vois. C'est des signes. 45 points le game 6, c'est quand même, tu vois, ça te montre, ouais, ils sont sur les rotules les mecs en fait. Et il y avait à Denver, c'est ce qu'on disait hier, il y avait pas de banc, pas de banc. Il n'y a pas eu, il y a eu aucun impact du banc ou presque.
Il y a
Justin
Christian Brown qui a
Holiday.
été bon, quoi.
Ouais, mais...
Dans le match 7, pardon, je parlais dans le match 7, ouais.
Enfin, dans le match 7, il met 5 points, il n'est pas mauvais, tu vois, il fait une entrée correcte, et même à un moment, il joue à la place de Michael Porter Jr., finalement,
ouais.
tu vois, dans le quatrième quart-temps. Donc oui, il apporte un peu quelque chose, mais même sur l'ensemble des playoffs, si tu regardes bien Christian Brown, tu vois que le cap de passer de 9e, 8e homme à 6e homme, c'est déjà un cap, tu vois, qui n'était pas simple pour sa deuxième saison NBA. Je pense que l'an prochain, il y sera à ce niveau-là, d'être le 6e homme des Nuggets. Mais là, sur cette saison, je pense qu'il n'était pas encore prêt. Je pense que l'an prochain, Peyton Watson sera intéressant. Mais là, on l'a pas vu, il ne jouait même pas. Il y a des choses à Denver, et c'est peut-être pour ça que dans le temps, ils seront très difficiles à… Ils seront encore présents, de toute façon, l'an prochain et l'année d'après, il y en a aussi longtemps qu'il y aura Jokic. Mais je pense que c'était trop léger pour cette saison. La perte de Bruce Brown est énorme.
Ouais, en fait, moi j'ai trouvé surtout ce qui leur avait manqué finalement, c'est un autre joueur capable de se créer son tir en attaque. Parce que, et je pense que c'est là où moi j'ai souvent été très enthousiaste sur le potentiel de Michael Porter Jr. Au bout du compte, c'est quand même la partie de son jeu qu'il a pas du tout développée. Et s'il est pas bon en réception de tir à 3 points, même s'il a fait des efforts en défense, je l'ai trouvé bon, notamment dans les aides. Au rebond, il fait une très bonne première mi-temps là, face aux Wolves, mais il a jamais développé ça. Et là, c'est vrai que sorti de Jokic et de Murray, t'as aucun joueur qui est capable de faire ça, parce que finalement même un joueur comme Aaron Gordon, il le fait dans les matchs où il a été très bon, il l'a fait vraiment
dans
du
contexte.
Drive vers le cercle. Voilà, tu sais que tu vas pas avoir 50 opportunités de scorer comme ça. C'est vraiment, je pense, qu'il leur a manqué. Alors c'est vrai que Bruce Brown leur a manqué, mais au bout du compte, je trouve qu'il leur a moins manqué que ce que j'aurais pensé, parce que c'était pas son registre non plus. Voilà, plus dans. J'ai trouvé que finalement, tu vois, le reste de l'effectif avait mieux gommé que je ne pensais l'absence de Bruce Brown. Mais effectivement, je pense que voilà, Denver sait ce qui leur manque pour la suite. Et puis ils avaient parlé de dynastie. Nous, on en avait parlé aussi. Je pense que c'était clair de toute façon qu'on les voyait pas faire une dynastie à la Lakers ou à la Chicago Bulls des années 90. C'est plus sur le côté un peu Spurs. C'est-à-dire que tous les ans où t'as Jokic, tu sais que t'as une chance de pouvoir aller en finale. En gros, c'est ça quand t'as un joueur aussi fort. Mais voilà, ça. Beaucoup de déceptions, je pense, pour Denver. Je pense quand même. On en parlait un petit peu avant de commencer le CQFR, que effectivement les Wolves étaient le pire match-up possible pour eux, que c'est le match-up qui a vraiment exposé toutes les faiblesses et les limites de cette équipe. Maintenant, voilà, c'est aussi une manière de se relancer, de peut-être de devenir le chasseur par rapport à la quote que tu sortais de Jamal Murray, de dire bah non, on va leur prouver que c'était pas juste, on n'était pas
ouais.
juste une équipe d'un coup et on va repartir différemment. Il y a du potentiel, il y a des choses à faire avec cette équipe de Denver, comme tu l'as dit, tant qu'il y aura Jokic et notamment et encore plus Jokic et Murray.
Murray,
voilà.
Bah.
Et il y a un coach comme Michael Malone qui va garder la confiance de la franchise. Je pense que voilà, cette équipe a de beaux jours devant elle, mais voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux pas t'endormir sur tes lauriers. C'est chaque année, faut que tu imagines que c'est ta première année où tu vas essayer de gagner le titre.
Allez, peut-être une dernière équipe avant qu'on en termine avec ce CQFR. Une autre équipe qui a un bel avenir, c'est le Thunder. Shai Gilgeous-Alexander a déclaré en gros, on va le faire en gros, il a dit que voilà, c'était pour eux, cette défaite, c'est une forte occasion d'apprendre. Et c'est une manière de reconnaître à demi-mot, c'est même pas reconnaître, parce qu'ils le savent, c'est une équipe qui était quand même très expérimentée, le Thunder, inexpérimentée à ce niveau-là, et qui a réussi quand même à aller jusqu'en demi-finale de conférence d'une terrible conférence Ouest en tant que premier, et qui n'est finalement pas passé si loin. Je crois qu'OKC et Dallas ont mis le même nombre de points sur la série. Je crois que c'est ça la stat, pardon, c'est peut-être une bêtise maintenant. J'ai un grand doute sur quelle série... Je dis pardon, oubliez ben bref, en tout cas, c'était une série serrée qui aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre à plusieurs moments. Mais donc voilà, le Thunder et cette déclat de Shai sur le fait, voilà, ils vont apprendre et ils vont sans doute revenir plus fort.
Ouais, ben c'est moi, c'est dur de pas aimer Shai, hein, parce que franchement, là c'est vrai qu'on vous sort la côte comme ça, mais faut le voir sortir la manière dont il le dit en conférence de presse. C'est vraiment un super leader et il a tout à fait raison, parce que finalement, encore une fois, personne n'aurait parié en début d'année de se dire ok, s'il va passer, sera tout prêt de faire une finale de conférence. On pouvait l'imaginer, mais le fantasmer plus que vraiment l'imaginer. Là, tout est en place pour OKC pour la suite. Hein. Honnêtement, quand tu dis que Chet Holmgren, c'était sa première saison, quand tu vois la jeunesse d'un mec comme Jalen Williams, la jeunesse encore relative, mais malgré tout, Shai est au début de son prime. Là, il est au tout début de son prime. Ah, OKC a toutes les armes pour vraiment devenir, je pense, une place forte de la Conférence Ouest et de la NBA. Moi, je me suis régalé, en tout cas, dans la série OKC Dallas. C'était un régal à regarder, notamment en termes d'ajustement. Bah, les deux séries à l'Ouest, en fait, finalement, d'un match sur l'autre, tu voyais vraiment les ajustements tactiques. Tu voyais la manière dont les joueurs devaient changer un petit peu leur jeu, s'adapter. C'était un vrai kiff. Et voilà, l'avenir, il est grandiose, je pense, pour OKC.
Et je confirme, et c'est bien, il y a bien eu égalité en nombre de points inscrits entre Oklahoma City et Dallas, 636 chacun. Voilà, je suis allé vérifier. Et je partage aussi, comme toi, hein, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir. J'ai hâte de voir aussi quel est le cap que va passer chez Gildius Alexander individuellement. Il a été excellent sur ses playoffs. J'ai l'impression qu'il doit quand même encore ajouter un petit truc à son arsenal. Je ne sais pas comment le pointer du doigt. Il y a des moments, je l'ai trouvé très bon. Et tu sais, par exemple, tu pointais du doigt, c'était un truc, je crois que c'était dans le Game 2, tu disais, Shea, il a scoré, mais au final, la manière dont il a scoré, c'était moins bien que dans le Game 1. Je sais, tu vois, sur le fait que justement, il y avait moins de circulation de balles.
Oui.
Moi, j'ai eu cette impression aussi dans un des matchs, mais je crois que c'est le match qui gagne en plus, pour le coup. Je crois que c'est celui où ils font un hold-up. Je crois que c'est le Game 4. Soit c'est le Game 4 où ils gagnent, malgré tout, soit c'est le Game 5 qui perd, je ne sais plus, un des deux matchs en question, je me suis fait un peu la même réflexion en mode, est-ce que vraiment c'est ça dont l'équipe a besoin là tout de suite? Ou en tout cas, je ne sais pas, c'est comme Tatum, tu vois, des fois c'est un peu abstrait de trouver le petit point, mais chez, par exemple, s'il apprend effectivement et qu'il comprend comment gagner, parce que c'est ça en fait, aucune équipe passe de... Enfin, on a peu d'exemples d'équipes qui passent de pas qualifiées en play-off à finale NBA, tu vois. Il y a un learning curve, tu te prends des échecs. D'ailleurs, passage, pardon, je fais une parenthèse dans ma parenthèse. Je ne sais pas si tu as vu le moment où il y a Edwards et Kat en conférence de presse et il y a un journaliste qui leur dit « Ouais, mais bah, il leur dit la même chose. Bah, il faut connaître des échecs avant de gagner. Donc là, quand même, vous devez avoir des échecs. Vous avez quand même... » Et là, il y a Edwards et Kat qui leur disent « Non, mais attends, on a perdu l'année d'avant. » Et Edwards, il dit « Ouais, et l'année d'avant aussi. » Et après, Kat, il dit « Mais ça fait 20 ans, on perd. Qu'est-ce que tu veux de plus? À quel point tu veux qu'on perde ?» Tu vois. Mais bref, bon, je reviens à chez Gildeus Alexander. De comprendre comment gagner, c'est un truc que je vais attendre chez lui maintenant, dès l'an prochain, tu vois.
Ouais, ça et va être... Vas-y, pardon.
Non, j'allais dire jusqu'à présent, à chaque fois, il n'a pas déçu qu'il fallait passer un cap.
Ouais, non, complètement, mais il y a un cap global. Alors, c'est vrai que pour Chet, il faut faire attention, parce que la deuxième année, c'est pas
Chet,
forcément
Chet,
la plus
Chet,
facile.
Pour
Chet, je suis d'accord avec toi pour Chet, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur jeune effectif, il faudra voir aussi pour un joueur comme Chet, autour de qui il y aura beaucoup d'attentes l'an prochain sur la deuxième saison, c'est pas toujours la plus facile à gérer, mais... Effectivement, enfin, pour le coup, je sais que c'est un poncif là, le truc qu'on va beaucoup apprendre de cette défaite, mais je pense que pour OKC, c'est vraiment vrai pour tout ce que tu as souligné, Antoine, et ça va être passionnant à voir. J'ai trouvé malgré tout que dans cette série face à Dallas, ils ont manqué un peu de taille en fait. Alors c'est une équipe qui est pas petite, c'est-à-dire qu'ils ont pas de joueurs petits, mais finalement sorti de Chet Holmgren, il y a pas vraiment de vrai big man, d'autant que dans le dernier match là, Jalen Williams, l'intérieur a peu joué et là, Dallas, on a senti la différence, finalement, j'ai trouvé avec les
rebonds à chaque fois.
Ouais, au rebond, les big men, les PJ Washington, tu sens que les mecs sont les mêmes. Derrick Jones qui joue plus grand que sa taille, je trouve, par sa dimension athlétique, il y avait un vrai impact là-dessus. Donc, ça va être intéressant de voir la suite. Pour le cap dont tu parles pour Shea, je pense que c'est à la marge, effectivement, mais quand on est à ce niveau-là, c'est des détails qui peuvent vraiment faire la différence. Et ça va se gérer aussi en fonction de comment l'équipe prend. Et on va peut-être parler vite fait de Gordon Hayward, parce que quand il a été signé avec... Je me rappelle que toi et moi, on était hyper enthousiastes autour de cette signature.
Persuadé qu'il allait avoir un impact.
Ouais, on s'est dit, bah voilà, c'est le mec parfait. Lui, il a traversé tout ça. En play-off, si ça devient dur, il va pouvoir gommer certaines choses. Finalement, on l'a très peu vu tout au long de la saison. Il a même jamais eu l'occasion vraiment de se mettre dans un rythme quelconque. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite. Il est free agent, si je ne me trompe pas, cet été, Gordon Hayward, non?
Oui, je crois. Je vais te vérifier ça tout de suite, mais je pense que son contrat arrive à expiration et que c'est pour ça qu'ils avaient fait le... Oui, il est free agent.
C'est ça, parce que effectivement, j'ai senti, alors c'est peut-être que je regarde trop là-dedans, mais que j'y vois des choses qui n'y sont pas, mais qu'il y a peut-être un petit peu de frilosité de la part de Marc Daigneault dans le fait de l'impliquer beaucoup, parce que finalement, ce groupe, c'est lui qui l'a construit, tous ces jeunes, c'est lui qui les a formés, qui les a amenés à ce niveau-là, et j'ai senti que peut-être il y avait eu un peu de frilosité dans le fait de dire, bah, je vais quand même pas sortir tel
Un
jeune
bon
pour
gars
mettre
pour.
Gordon Hayward, parce qu'on n'est pas sûr vraiment, est-ce que ça va vraiment faire une différence, mais voilà. Moi, je vais garder un œil là-dessus sur cet été. Je ne sais pas comment OKC va se positionner par rapport à Gordon Hayward. Je ne sais pas ce que Gordon Hayward va chercher. Je ne dis pas non plus que c'est la réponse à tous les problèmes d'OKC. Mais je pense qu'il faut un joueur quand même dans ce registre-là. Un joueur avec de la taille comme Gordon Hayward qui peut créer, qui peut jouer des deux côtés du terrain et peut-être un petit peu plus expérimenté sans forcément dire qu'il faut une superstar de plus. Mais c'est peut-être voilà, une chose qui a manqué peut-être à OKC finalement dans la série face à Dallas.
Le Thunder a beaucoup d'espace sous le cap. Alors, il y a des prolongations évidemment pour les jeunes, mais le Thunder a beaucoup d'espace sous le cap. Donc, il y a moyen d'aller chercher. Et bah, de toute façon, il va falloir maintenant ramener des joueurs extérieurs au projet. Hein. Tu peux pas juste. Et je pense que peut-être même Josh Giddey va devoir. Tu vois, il va y
Que j'allais
avoir
dire
peut-être
un choix à faire quoi.
un choix à faire. Je crois que c'est l'année où il est éligible à une extension en plus, Josh Giddey. Donc, bon. Là, il a déjà eu. Non, c'est pas encore l'année. Oh, bref. Non, et je crois qu'il lui reste une saison avant qu'il. Si, quoique, pardon, je dis une bêtise, c'est cet été qu'ils doivent négocier son extension. Donc, il y a peut-être moyen qu'il y ait un trade. Il y aura des choses qui vont changer un petit peu, je pense. Tu as raison, il faut un pivot backup. Et pour Shai, je vais faire une comparaison. Les fans du Thunder vont m'insulter parce que la comparaison n'est pas très flatteuse. Et évidemment que Shai a un potentiel plus haut. Mais il faut faire gaffe. Tu vois, DeMar DeRozan. Évidemment que Shai est meilleur que DeMar DeRozan. Shai a fini deuxième du vote pour le MVP. Jamais DeRozan n'a été deuxième du vote pour le MVP. Donc c'est une catégorie au-dessus. Mais DeMar DeRozan, il a eu un moment ce petit statut avec une équipe qui va loin en playoff, tu vois, qui se casse les dents sur LeBron James. La comparaison est erronée. Hein. Elle n'est pas tout à fait vraie. Mais tu vois, il y a eu un cap. Il y a un moment, un cap qui n'a pas réussi à être passé. En fait, je prends la comparaison, je la trouve intéressante. C'est deux joueurs qui brillent beaucoup à mi-distance. Et pour Shai, en fait, tu peux schématiser contre ça. Et c'est ce qu'ont fait les Mavericks au bout d'un moment en se disant, bah, attends, lui, on va juste l'empêcher. Alors, il a quand même mis ses tirs, hein, mais on va l'empêcher et c'est les autres qui vont nous tuer. Et si Shai, il a un tir à 3 points, par contre, tu ne peux pas le faire. Tu vois. C'est pour ça que je prends une comparaison qui est un peu fausse avec DeRozan, Shai au-dessus de ça. Mais bah, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Désolé, je brade un peu, c'est compliqué, ma comparaison est compliquée, ce n'est pas la meilleure comparaison. Mais il y a un truc où je me dis, est-ce qu'il y aura un petit cap de passé? Et je vois ça aussi en partie à travers l'adresse à 3 points. C'est vrai que je disais que c'était flou, mais aussi en partie à travers ça, est-ce qu'il peut ajouter, est-ce qu'il peut étendre un peu son range pour devenir pas moins, parce qu'il est déjà imprévisible en attaque, mais avoir plus de zones préférentielles.
Non, je vois ce que tu veux dire. Après, la comparaison, je la trouve un peu dure avec DeRozan parce que c'était quand même dans une conférence S super faible que les Raptors avaient pu faire ces perfs-là. Et je trouve que Shai, de par son poste, a un rayonnement qui est autre quand même que celui de DeRozan sur le rendement de son équipe. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, ça va être dans la construction de l'équipe parce qu'effectivement, il y a quand même plus de shooters aussi autour de Shai, je pense, potentiellement que ce qui était le cas. Après, le jeu n'était pas tout à fait le même. Hein. Le jeu
Ouais,
des
c'est pas la
Raptors de
même
l'époque, c'est
époque.
un peu différent.
C'est pas
Mais
la même époque.
en tout cas, ouais, ça va être intéressant parce qu'effectivement, tu fais très bien de parler de Josh Giddey. On va voir si dans quelle mesure le Thunder va être agressif cet été parce que je pense quand même, et que c'était ce qu'on n'imaginait pas forcément, c'est que la fenêtre, elle est déjà ouverte. La fenêtre pour jouer le titre, elle est déjà ouverte et on sait que c'est court et on sait que là, les décisions qui viennent maintenant où tu dis bah, c'est à la marge, mais en fait, c'est celles qui peut faire la différence, même pour l'histoire de ta franchise. Donc, ce n'est pas l'équipe qui a le plus de pression cet été, mais par contre, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va être fait, parce que c'est des choix qui peuvent avoir un retentissement hyper important pour l'équipe, même pour la Ligue.
Ouais, c'est le moment. En fait, il faut trouver ton Aaron Gordon, tu vois. Ils ont déjà la base. Tu sais que tant que tu as Shai et Chet Holmgren, tu as deux joueurs All-NBA. Shai, tu as un candidat au
Et Jalen
MVP.
Williams,
Et
potentiellement.
Jalen Williams qui est excellent, oui. Donc, tu as vraiment ton Big Three. Tu as déjà tes 3 pièces. Maintenant, c'est quelle est la pièce qui complète parfaitement ces mecs-là, tu vois. Sachant qu'après, tu peux toujours trouver les Lou Dort, les Cason Wallace, tout ça. C'est interchangeable. Et tant mieux si tu gardes ceux que tu as draftés et qui ont grandi avec toi, mais c'est interchangeable. Pour finir, un dernier petit truc, je voulais mettre en avant une session voilà, sur Basket Session. Vous avez la possibilité de maintenant de poster des sessions. de participer avec nous, de participer à la vie de la communauté basket, de la communauté NBA. Et j'aimerais en mettre une en avant, c'est celle du Petit Chelem. Voilà, je vais citer le pseudo. Le titre de sa session, je trouve très intéressant. Ça rejoint un peu ce qu'on disait hier. Enfin, sa session est très intéressante. Les Knicks n'en seraient pas là sans Thibodeau, mais ils ne peuvent pas aller plus loin avec Thibodeau. Ça rejoint un peu le CQFR d'hier où Shai disait que, voilà, Shai, grand optimiste d'habitude, disait « Je suis un peu inquiet pour la suite pour les Knicks parce que je connais les formules Thibodeau, je connais le processus, c'est-à-dire que ça commence très fort, il y a plein d'enthousiasme, puis il y a des blessures et ça se casse la gueule. » Donc, je vous invite à aller lire cette session du Petit Chelem sur les Knicks, éventuellement à commenter si ça vous dit, de participer au débat avec lui. Mais voilà, sur les Knicks, parce que ça peut être la suite des Knicks peut être intéressante et peut-être pas aussi rose que ce qu'on pourrait croire malgré un parcours encourageant au final.
Ouais, bah, n'hésitez pas à les commenter effectivement dans la session du Petit Chelem. Ça pourra nous donner aussi des sujets peut-être à aborder en podcast ou dans d'autres CQFR. Mais c'est vraiment la grande question pour les Knicks. Je pense qu'on pourra y revenir dans tous les cas.
Yes. Ce soir, cet après-midi, il y aura un podcast qui sera disponible en fin d'après-midi sur la chaîne Basket Session Rivers. Donc, on sera avec Théo, avec Shai. C'est vrai qu'on l'a pas fait hier, mais pour le coup, on va aborder les finales de conférence. Donc, Boston, Indiana et Dallas, Minnesota. Donc, n'hésitez pas à checker ça. Si ça intéresse, on rentrera beaucoup plus en profondeur. Et je vous rappelle que le MOOC Défense, la réédition du MOOC Défense, plusieurs packs sont disponibles en précommande sur basketsession.com, sur le shop de Basket Session. Donc, allez jeter un œil. Ça, c'est pour le coup, le MOOC, c'est un très bel objet. Je recommande entièrement et complètement, vu que je participe. Voilà. Plus vous achetez, vous plus généralement je suis bien.
On vous le présentera en détail aussi pour vous donner le sommaire, etc. On vous parlera de tout ça très vite.
Yes. Je suis un peu comme les Nuggets là. Moi, plus le CQFR il est long, plus tu vois, ça devient compliqué. Et là, je sens que si tu me laisses encore 5 minutes de plus, je vais commencer à raconter des conneries sur Michael Porter Jr. Donc, c'est peut-être pas le moment. On va s'arrêter là. On se retrouve du coup cet après-midi pour un podcast et demain pour un nouveau CQFR. Ciao à tous.
Ciao à tous.